Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. À l'instar de chaque jour qui passe sur ce premier tronçon, je me suis tapé une épouvantable montée pour sortir de Conques. Arrivant près de la chapelle dont Patrick m'avait recommandé de faire sonner les cloches avant de me souhaiter chaleureusement un bon chemin, je ne me fis pas prier pour tirer sur la corde et la faire retentir tant que je pus. Après un petit moment de silence, les cloches de l'abbatiale sonnèrent en réponse. Satisfait de cette amusante parenthèse, je repris la route en direction de Decazeville. Je m'y suis arrêté le temps d'un café qui me fut offert par Fabien, un breton de passage en Aveyron, pour visiter sa famille. Belle rencontre. À la sortie de Decazeville, je suis tombé sur un pèlerin qui s'avérait, après quelques dizaines de minutes de marche, être nul autre qu'un ennemi politique. Un ancien directeur d'Enedis, fraîchement retraité, contre qui Serge et moi, enfin surtout Serge, à l'époque bien seuls dans ce combat, nous battions contre l'installation des compteurs communicants que nous jugions, et que je juge toujours, ainsi qu'un bon nombre d'élus à travers la France, catastrophiques sous bien des aspects. Je t'invite d'ailleurs à ce sujet, camarade auditeur, à bien te renseigner. Tu apprendras que des centaines de communes tentent de s'en prémunir et comment le droit se fait bafouer puis réécrire au profit d'une entreprise privée. Nos échanges furent cordiaux, sans doute parce que je commençais à ressentir l'effet apaisant du chemin et surtout parce que ce némésis politique m'avoua du bout des lèvres que nous n'avions pas tout à fait tort de s'opposer au déploiement de cette calamité. La pluie vint gâter nos badinages, nous forçant à faire halte à Livignac-le-Haut, où l'agent communal d'un gîte municipal nous proposa de nous abriter dans le réfectoire en attendant que le mauvais temps s'en aille. Mon compère et moi-même en profitâmes pour mettre en commun nos vivres et casser la croûte. Le grain passé, l'ex-directeur s'en alla trouver une chambre d'hôte pour passer la nuit. Quant à moi, heureux d'avoir retrouvé l'usage complet de mes gambettes, je me suis remis en marche. J'étais inquiet. Je n'avais jusqu'à présent manqué de rien, mais là, je n'avais aucun plan pour la nuit. Presque plus de bouffe dans le sac, et redoutait surtout de ne pas trouver un abri en cas de pluie, ce qui était fort probable. Mon inquiétude ne fit que s'agrandir quand l'orage me surprit et me trempa de la tête aux pieds avant même que je n'eus le temps d'enfiler ma cape à bosse. Une bonne demi-heure s'écoula avant que je n'atteigne le village de Montredon. J'inspectais les lieux à la recherche d'un abribus ou d'un coin isolé qui m'aurait protégé de la pluie battante. À l'arrière de l'église se trouvait un abri destiné aux pèlerins, proposant libre service du café, du thé, du lait et des biscuits. Je m'y suis installé. Du temps que je faisais chauffer un broc de café, je me suis changé et fis sécher mes vêtements du jour. Une heure passa sans que je ne sois dérangé. Lorsque je commençais à envisager d'y passer la nuit, un paroissien apparut et m'informa qu'il allait fermer le local pour la nuit. Je lui demandai s'il saurait m'indiquer un lieu où m'abriter. Il me recommanda de toquer au gîte d'en face, m'affirmant que le gérant a toujours sa porte ouverte pour un pèlerin en détresse. Après avoir plié bagage, je traversai la rue et m'en alla toquer à la porte du dit gérant. Celui-ci m'accueillit à bras ouverts, m'indiquant avoir beaucoup de chance, car il n'était pas encore ouvert, mais qu'il fit une exception pour la nuit lorsque deux jeunes femmes l'avaient appelé à l'aide, ne trouvant où dormir, les autres gîtes étant complets. Il eut même la gentillesse de nous ramener un sachet de pâtes, du pain et du thon qu'il nous invita à cuisiner. Il nous salua et regagna son chez-lui. Malheureusement, pas de chauffage. Le gîte n'ayant officiellement pas encore ouvert ses portes, il nous fallut nous contenter d'un repas et de la couette pour nous réchauffer. Si je ne craignais pas le froid, j'étais en revanche embêté de savoir que mes vêtements ne sécheraient pas. « Bon, après tout, j'ai un toit pour la nuit, c'est déjà ça, » me dis-je.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non. parler de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant je voulais très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais, que la paix règne maître ce soir demain. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Le lendemain, réveillé à 6h30, constatant qu'il ne pleuvait pas encore, je me suis empressé de quitter le gîte pour rejoindre Figeac, où je savais que je pourrais sans doute dormir en toute quiétude au Carmel qui accueille les pèlerins. Je pourrais y laver et faire sécher mes affaires de la veille et probablement du jour aussi, compte tenu de la météo capricieuse qui nous était annoncée. Prévoyant, j'avais enfilé ma cape à bosse, au cas où, histoire de ne pas me faire avoir une deuxième fois. C'était une bonne idée, car j'eus à peine le temps de quitter mon redon qu'une douche froide s'est abattue sur ma trogne. Ce qu'il y a de bien avec une cape à bosse ou un poncho de pluie, comme ils disent dans les rayons d'Hécatlon, c'est que si tu es protégé de la pluie, tu y transpires tellement que tu finis quand même trempé. La mienne, très bon marché, le modèle à 6 euros, avait en plus la particularité, par je ne sais quel miracle scientifique, de prendre l'eau au niveau des aisselles. C'est donc mouillé de la tête aux pieds jusqu'à l'os que je déambulais péniblement dans la boue où j'ai manqué une bonne paire de fois de m'y vautrer copieusement. Vers midi, je suis arrivé dans une petite commune dont hélas j'ai mangé le nom, mais dont j'aimerais vraiment rendre grâce pour l'abri destiné aux pèlerins qu'elle a mis en place. Tout le confort nécessaire s'y trouve. Douche, toilette, lave-linge, sèche-linge, table, chaise. Malheureusement, il n'y manquait que l'électricité. Si je n'eus été en mesure d'y faire sécher mes nippes, ni de réchauffer tant j'avais froid, je pus au moins attendre la calmie et me restaurer un brin avant de reprendre la route. Une bonne heure passa avant que la pluie ne cesse de tomber. J'ai sauté dans mes grolles et descendu sur Figeac, où j'arrivais 2h30 plus tard, exténué par le froid et le frottement de mes fripes, dégoulinant d'eau et de sueur. Arrivé devant le Carmel, je vis un mot indiquant que les portes ne s'ouvriraient pas avant 16h30. J'entrepris alors de visiter un peu la ville et de trouver un troquet où me réchauffer d'un café. Caféine perfusée, je retournais au Carmel, heureux d'imaginer pouvoir enfin faire sécher mon linge et ma carcasse endolorie. Attendant l'arrivée de l'hospitalier, je me suis assis sur le banc devant l'entrée, aux côtés d'une pèlerine qui attendait également. L'hospitalier sortit, salua la jeune femme, ne jeta même pas un coup d'œil en ma direction, informa ladite qu'il avait eu un accident de vélo la veille, qu'il n'était pas en mesure de recevoir qui que ce soit à part elle. Il rentra en trombe, elle le suivit, me regardant d'un air navré, me sourit et disparut derrière la lourde. Et merde, je suis bon pour faire la manche jusqu'à la tombée de la nuit si je ne veux pas passer la nuit dehors. Et puis là, il me reste 1 euro et des broutilles, pensais-je alors, complètement dépité. Je traînais mes souliers jusqu'à l'église où se trouvait un groupe d'une trentaine de touristes qui m'interpellaient pour savoir si j'étais pèlerin. S'engagea un interrogatoire sur mon chemin, ma destination, mes difficultés et autres questions du genre. Lorsqu'ils eurent fait le tour de la distraction que je représentais, ils partirent sans que je n'ose les taper de quelques pièces. Si j'étais à l'aise en faisant la manche, il m'était difficile de demander directement. Je m'assis sur le parvis, coquille à terre, et attendis patiemment que le ciel m'envoie autre chose que de la flotte. Je ne fus que très partiellement exaucé. Si j'avais en un peu plus d'une heure récolté 3 euros, la pluie vint à nouveau s'abattre sur moi. En m'en allant, je vis un flyer qui m'indiqua que le Carmel allait accueillir le surlendemain une conférence sur la dernière exhortation apostolique, Gaudete Exultate, tenue par l'évêque. C'est ma chance, me dis-je. Je vais retourner de ce pas proposer à l'hospitalier de l'aide pour préparer tout ça et lui filer un coup de main pour gérer le gîte, contre une ou deux nuits au chaud. Je m'y rendis d'un pas ferme et motivé, frappai à la porte et saluai l'hospitalier. Je n'eus malheureusement pas le temps de lui proposer mon aide, il me dégagea avec une grossièreté qui me scotcha le derrière. À peine eut-il ouvert la porte qu'il m'aboya dessus. « Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, je ne peux recevoir personne, alors dégagez !» Puis il ferma la porte brusquement. Cette espèce de trou du cul sans poil avait réussi à ajouter la colère à ma palette d'émotions de ce jour-là. Je suis retourné en ville furibond, fulminant dans ma barbe d'adipeuses injures et invectives dont je me reprochais vivement de ne les avoir répandues en tas de fumier à la gueule du mal nommé hospitalier. La colère fut le soir arrivant remplacée par la peur de dormir sous la pluie. De plus, les honnêtes gens s'en étaient rentrés chez eux, laissant la rue à de peu fréquentables camés qui cherchaient à acquérir ou vendre leur dose. Désespéré, je décidai de reprendre le chemin. Il était ma seule chance de trouver un toit pour la nuit. Approchant du quartier de la cité administrative, je vis une petite église et ressentis un besoin irrépressible de m'y arrêter. J'y entrai. Chaque pas qui me conduisit vers l'hôtel avait un effet de pompe à émotion, faisant monter en moi tristesse, colère, larmes. Je m'agenouillais, pleurant toutes les larmes de mon corps, m'apitoyant sur mon sort jusqu'à ce que je m'écroule d'épuisement. Quand je repris mes esprits, je me mis à éclater de rire face au ridicule de mes jérémiades. « Enfin voyons, ma poule, me dis-je, tu as à manger dans ton sac, un repas frugal, soit, mais tu ne mourras pas de faim, tu as de la flotte, et tu pleurniches parce que tu vas peut-être devoir dormir sous un pont mal famé. Et alors, tu seras à l'abri, et ma foi, cette expérience pourra te conduire à de belles rencontres. » Pris de joie, je me dirigeais vers la sortie, prêt à affronter la nuit et ses oiseaux. Lorsque je m'aperçus qu'il m'était impossible d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée à clé. J'avais entendu un bruit un peu plus tôt, mais je pensais qu'il s'agissait d'un fidèle venu se recueillir. Eh bien non, j'étais enfermé et n'avais d'autre choix que d'attendre que la nuit passe pour être délivré. Demandez et vous recevrez. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.